J'aime bien l'agité du local du vendredi.
Ah oui, c'est le grand entretien. Eh, monte le son.
Si je regarde d'un peu plus près d'où je viens, à travers l'histoire de mes parents, grands-parents, voire même arrière-grands-parents, je découvrirai très certainement un morceau de notre histoire collective qui pourrait tendre à s'effacer, à être oublié. Il s'agit parfois de morceaux de notre histoire locale auxquels certains pensent encore avec une certaine nostalgie. Il s'agit aussi parfois de combats qui se mènent encore aujourd'hui dans l'ombre et que l'on n'imagine pas. Des combats pour la dignité, des combats pour la reconnaissance. C'est un peu de tout ça dont va nous parler mon invité d'aujourd'hui. Il s'agit de Nicolas Jallot, réalisateur du film Le Dernier Combat des Gueules Bleues, qui retrace cette partie de l'histoire qui a marqué l'Anjou, l'histoire des ardoisiers mineurs. Après le grand entretien de ce vendredi, nous aurons bien évidemment l'agenda culturel, mais très court cette semaine, car nos salles de spectacle prennent aussi des vacances. Bienvenue à vous, amis auditeuristes, dans cette dernière agitée du local de la semaine. Bonjour Nicolas Jallot, vous êtes journaliste d'investigation et grand reporter. Vous avez collaboré avec plusieurs journaux, Sens Magazine, Le Point, VSD, La Chronique d'Amnesty International et France Soir en tant que chef du service étranger. Et en 2001, vous vous consacrez au documentaire pour la télévision. Aujourd'hui, on va parler ensemble de votre film Le Dernier Combat des Gueules Bleues qui sera diffusé le lundi 4 mars à 23h10 sur France 3.
Oui, tout à fait. Maintenant, je suis depuis plus de 20 ans, je suis réalisateur de documentaires.
Donc aujourd'hui, on va vraiment se consacrer à votre documentaire « Le dernier combat des gueules bleues ». C'est un documentaire qui est consacré à ce que vous appelez une épopée régionale et humaine oubliée. C'est l'époque où l'Anjou était premier producteur mondial d'ardoises. Cette région, en fait, est chargée de cette histoire. Et vous, cette histoire, vous la connaissez parce que votre père et votre grand-père étaient eux-mêmes mineurs, c'est bien ça ?
Oui, j'ai presque envie de dire, c'est un peu mon histoire, quelque part. Parce que c'est une histoire un peu familiale, c'est une histoire qui est très liée à mon village de naissance et d'enfance, qui est le village de Renazé, au sud de Mayenne, où, au début du XXe siècle, Renazé étant l'un des plus grands producteurs mondial, tout simplement, d'ardoises. Il y avait entre 80 000 jusqu'à 150 000 tonnes d'ardoises qui ont été livrées chaque année. Donc c'était vraiment le bassin ardoisier du Haut-Anjou, comme on appelle. Et donc oui, je suis très très lié à cette histoire, étant moi-même issu d'une longue lignée d'ardoisiers mineurs. Et je dirais même plus loin, je pense que Renazé doit son existence, si vous voulez, aux mines d'ardoises. Alors on l'a oublié aujourd'hui parce que le puits de Renazé, le dernier puits de Longchamp, a fermé le 31 décembre 1975, donc il y a 49 ans bientôt. Donc c'est une vieille histoire, mais c'est une histoire qui vit toujours parce que ça a changé beaucoup le paysage. Ça a marqué les mentalités. Il y a une très forte solidarité dans ce genre de contrée. Et je pense que voilà, ça crée ce que moi j'appelle notre ADN, en fait. On vient tous de quelque part. Et c'est important de savoir d'où on vient et qu'on a été forgé, qu'on s'est forgé aussi, qu'on s'est construit à partir de cette histoire-là. Et donc, voilà, cette histoire, elle se situe dans le sud de Mayenne.
Et donc, si on commence par regarder le tout début de l'histoire de ce projet, c'est vous-même qui avez proposé à France 3 de se pencher sur cette histoire, puisqu'il pensait d'abord à des mines de charbon ou d'acier. L'ardoise, c'est quelque chose qui a été un peu oublié, vous pensez, dans notre histoire ?
Oui, alors, l'histoire, elle est née parce qu'il y a, trois ans, j'ai été invité par le Festival des 37, qui a lieu sur 37 communes du sud de Mayenne. Loïc Méjean, qui est le président de cette association qui crée ce festival avec Cran, Château-Gontier, Renazé, m'a contacté parce qu'il avait vu un de mes documentaires à la télévision. Et en se renseignant, il s'est rendu compte que j'étais originaire de cette région, du sud Mayenne. Et donc, il m'a contacté pour me demander de venir dans le cadre de ce festival présenter un film qui s'appelait Massoud l'héritage sur l'Afghanistan. Et lors de cette visite dans le sud Mayenne, en fait, j'ai un peu redécouvert quelque part mes origines et mon village d'enfance. Et surtout, on m'a interpellé, on m'a dit « Mais pourquoi vous ne faites jamais des sujets comme les ardoisières, etc. » Et là, je me suis dit « Bon, pourquoi pas ?» France Télévisions étant aussi dans une nouvelle approche sur des sujets un peu plus régionaux. Donc j'ai proposé ce sujet à France Télévisions au début sur l'histoire des ardoisières de l'Anjou. Et donc ils m'ont dit banco, ils m'ont dit on y va, ok, vas-y, on te finance pour faire ce documentaire qui sera donc diffusé lundi soir sur France 3 à 23h et ensuite en replay sur la plateforme de France Télévisions.
Votre histoire familiale, on le disait, est chargée de cette histoire régionale. Qu'est-ce qui vous semblait important de raconter quand vous avez commencé à penser ce film, à l'imaginer ?
En fait, quand Loïc Maison est venu, dans le cadre de son reportage, m'interviewer, son angle était la solidarité. Et en fait, je me suis rendu compte que, oui, en effet, on venait d'un milieu très, très solidaire. Et très, très vite, quand j'ai voulu faire ce documentaire, en fait, je voulais à la fois retracer l'histoire des ardoisières de l'Anjou, mais aussi à la fois, je voulais faire un film un peu anti-germinal, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en fait, on a des images, des clichés sur les mines, qui sont souvent des clichés. Alors, il y a des clichés certainement très justes sur la souffrance au travail, sur les conditions de travail, sur la maladie professionnelle liée à la mine. Mais vous avez aussi ce pan de cette histoire qui est toujours offusquée, qui est cette histoire de solidarité. Et ce qui, moi, m'a frappé en allant à la rencontre des ardoisiers mineurs, c'est que tous, quasiment tous, seraient prêts dès demain à recommencer leur carrière, sachant qu'ils tomberont malades, sachant que ça sera difficile, etc. Et pourquoi ? Comme dit Gustave Leclerc, qui est de cran et qui a travaillé pendant 40 ans aux ardoisières de Renazé, parce que vous avez cet esprit de solidarité, comme il dit dans le film, qui est absolument unique. C'est quelque chose qui n'existe plus et c'est quelque chose qui, en fait, qui vous forge pour toute la vie et qui redistribue toute cette relation humaine que vous avez entre les gens, qui malheureusement aujourd'hui repose sur beaucoup d'autres choses. Et cette solidarité, c'est quelque chose qui était très ancré et qui était un peu leur moteur. Et leur moteur, je dirais, c'était aussi d'avoir un monde meilleur pour leurs enfants. Donc ils se battaient pour les améliorations sociales. Donc c'est vrai que le syndicalisme, par exemple en Mayenne, est très dans la région très marqué par les ardoisières. Et donc ça a été moteur de développement, ça a été moteur de revendication sociale, ça a été moteur de développement même économique. Comme on disait au début, les ardoisières étant un des premiers producteurs mondiaux d'ardoises. Donc ça a été quelque chose de très très important qui malheureusement on a vite oublié. On a voulu tourner cette page. Je pense que ça a été un peu une décision politique aussi de tourner cette page afin de passer à autre chose et d'oublier tous les affres de toute cette terre de souffrance.
Vous parlez justement de cette solidarité. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui était propre à la région, propre aux mines d'ardoise, ou est-ce que c'était quelque chose d'assez répandu en fait dans la profession en général, dans les mines même de charbon ou d'acier, comme on le disait tout à l'heure ?
Cette solidarité, je pense qu'elle est très très liée à la complexité de ce système des ardoisières. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez un système qui était digne de l'ancien régime. Vous n'aviez pas, par exemple, de sécurité sociale. Mon papa n'a jamais eu la sécurité sociale, n'a jamais eu la carte vitale. Vous aviez un système qui s'appelait la Caisse des Mines. Donc vous aviez un peu un système très paternaliste, quelque part. Et dans ce système paternaliste, vous ne pouviez pas faire autrement que d'être solidaire et de créer ce qui devenait une force, en fait. Et tout se créait, tout existait autour de la mine. C'est-à-dire que le travail de la mine organisait tout ce qui se passait à la surface. Et à la surface, vous aviez une solidarité immense, mais vous aviez aussi toute une vie. C'est-à-dire que l'école appartenait à la mine, l'hôpital de Renazé a été construit grâce aux mineurs ardoisiers, le cinéma Vox, qui est toujours en activité presque un siècle plus tard, a été construit par les ardoisiers mineurs. Depuis un siècle, au cinéma Vox de Renazé, il n'y a que des bénévoles. Il n'y a jamais eu que des bénévoles. Il n'y a jamais eu un centime de versé. Donc c'est un autre monde. C'est un univers qui a été créé justement à cause de cette mine et des ardoisiers.
Et dans ce film, vous mettez en lumière aussi cette tradition de devenir mineur de père en fils. Tous les mineurs se côtoyaient, vivaient les uns à côté des autres. Ils aimaient partager et travailler. Pour vous, c'est aussi un devoir de mémoire, ce projet-là.
Oui, tout à fait. Alors, ce travail, c'est vraiment un devoir de mémoire. C'est un travail, j'allais dire, pour l'histoire. Ça peut paraître prétentieux, mais je pense que c'est vraiment le rôle. Et puis, c'est aussi pour qu'on ne les oublie pas. C'est-à-dire que c'est pour rendre hommage, alors pas uniquement aux gens de ma famille, mais à tous ces ardoisiers mineurs de l'Anjou. Et puis qu'on ne les oublie pas, parce qu'aujourd'hui, ils sont oubliés. Et j'ai fait deux travaux. Il y a le film qui est diffusé donc sur France 3. Et puis, vous avez un livre qui sort aux éditions Ouest France, qui s'appelle « Au pays bleu ». Et dans ce livre, justement, on retrace beaucoup plus l'histoire de A à Z. Et pourquoi ce travail a été fait, que j'ai voulu aussi faire ce travail, c'est parce qu'il n'existait pas avant, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été très surpris de voir qu'il existait des dizaines de documentaires sur l'histoire des mines du Nord, de charbon, et qu'il n'en existait aucun sur les mines d'ardoise de l'Anjou. En fait, ça a été, pour moi, les bras m'en sont tombés. Je me suis dit, mais c'est pas possible que depuis toutes ces décennies, la télévision, à commencer par France Télévisions, qui est mon employeur principal, de se dire qu'ils n'avaient jamais rien fait sur les mines d'ardoise. Et quand j'ai présenté le projet à France Télévisions, c'était très intéressant parce que j'ai présenté sous la forme, savez-vous quelle est la dernière mine qui a fermé en France? Et tout le monde cherchait quelle mine du Nord, de Lorraine, etc. Et la dernière mine qui a fermé en France, c'est dans le Maine-et-Loire, à Trélazé, près d'Angers, en 2014, il y a juste 10 ans. Donc c'est une histoire qui est encore beaucoup plus récente que l'autre corporation minière à travers la France. C'est notre histoire à la fois régionale, mais c'est aussi une histoire nationale, c'est une histoire industrielle, c'est une histoire humaine, c'est une histoire même sociétale. Et donc c'était très important, je pense, de faire ce travail de mémoire pour que demain, on n'oublie pas justement tous ces gens qui ont payé aussi de leur vie pour ce travail-là.
Justement, le film, donc effectivement, raconte toute cette solidarité, ces liens entre les ouvriers. Mais le film raconte aussi, vous l'avez évoqué, différentes choses, et notamment cette maladie, la silicose, et ses conséquences tragiques sur les mineurs. Et vous parlez de la situation aussi d'aujourd'hui, parce que la silicose est considérée donc comme un vrai problème de santé publique, mais il est aujourd'hui aussi très compliqué de la faire reconnaître comme une maladie professionnelle. Cette maladie a tué au moins 60 000 mineurs, on peut le dire.
Oui, tout à fait. Alors, c'est très, jusque dans les années 2000, vous n'aviez pas de demande de reconnaissance en maladie professionnelle, parce qu'en fait, les ardoisiers mineurs étaient, j'irais jusqu'à dire, même si, dans le déni. C'est-à-dire que le jour où ils descendaient, quand ils avaient 18 ans, 19 ans, 17, quand ils commençaient à la mine, parfois même plus jeunes à une certaine époque, ils savaient qu'ils tomberaient un jour malade. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient vu leur papa, leur oncle, leur grand-père, ils savaient que cette mine les rendait malade. Mais en même temps, c'était leur destin, c'est-à-dire qu'en fait, ils le savaient, ils savaient qu'ils auraient la retraite beaucoup plus tôt, parce que les ardoisiers mineurs prenaient leur retraite à 50 ans. Donc ils savaient tout ça. Et en fait, il y avait une forme de déni. C'est qu'à partir des années 2000, quand la société change, il y a une vingtaine d'années, que les premiers ardoisiers mineurs commencent à vouloir revendiquer leur reconnaissance en maladie professionnelle. Et ça, c'est tout nouveau, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très mal accueilli, bien sûr, par le système des mines, c'est très mal accueilli par la sécurité sociale, c'est même, j'irais jusqu'à dire, mal accueilli par le système de santé, c'est parce que, en fait, avant, on avait cette maladie, mais on ne se plaignait pas, on ne manifestait pas la moindre revendication. Et ils étaient dans une forme de déni, une forme d'acceptation, si vous voulez. On acceptait cet état de cause. Depuis une vingtaine d'années, la société a changé. Et bien sûr, les derniers mineurs, surtout principalement de Trélazé, dans le Maine-et-Loire, se battent pour être reconnus en maladie professionnelle. Ils se battent plus pour une question de dignité. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne veulent pas spécialement des sommes d'argent mirobolantes. Certains réclament même un euro symbolique pour être reconnus en maladie professionnelle, mais ils veulent juste être reconnus pour ce qu'ils ont fait. Même le mot reconnaissance n'est pas assez fort. C'est juste, ils veulent juste une sorte de dignité retrouvée. Et qui, malheureusement, est très compliqué à obtenir, parce qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de précédent. Et la justice, par exemple, la justice à Angers, donne souvent tort à ces gens qui réclament, parce qu'en fait, il n'y a pas de précédent, tout simplement.
Dans le film, vous retournez dans la mine bleue avec David et Stéphane. C'est une mine qui aujourd'hui est silencieuse puisqu'elle a fermé, vous le disiez, il y a 10 ans. En tant que spectateur, nous, on ne se projette pas tellement dans ce type de lieu puisqu'on le découvre vraiment avec vous, avec votre caméra. Mais pour eux, c'est le retour des souvenirs, du son des machines presque qu'ils ont l'impression d'entendre. Il y a cette nostalgie et puis cette émotion finalement de revenir sur ces lieux-là.
Oui, alors moi, dans le film documentaire, j'ai voulu interviewer tous les mineurs au fond de la mine. C'est-à-dire qu'en fait, dès le début, comme on a une chance inouïe en Anjou d'avoir la mine bleue auprès de Noyan, qui est à 10-12 kilomètres de Renazé, auprès de Segré, cette mine bleue, si vous voulez, c'est le seul endroit encore où on peut descendre à 126 mètres sous terre et reconstituer un peu un décor de ce qu'était une mine d'ardoise. Donc moi, je m'étais dit que pour un film documentaire, si vous voulez, c'était quand même assez à la fois inédit et à la fois sympathique d'avoir un vrai décor. Et donc j'ai été très très surpris parce que tous les mineurs, vous parliez de Denis et Stéphane, mais même les autres, je les ai emmenés au fond de la mine bleue. tous ont eu des très grands moments d'émotion. Ils ont quasiment tous versé leurs petites larmes parce qu'ils ont retrouvé en fait leur univers, tout simplement. Leur univers qui, pour Stéphane, a été le sien pendant plus de 30 ans de sa vie. Donc, en fait, il vivait la mine. Et à la fin du documentaire, vous verrez, c'est très émouvant parce que ils se savent malades. Certains sont c'est inéluctable, donc ils savent qu'ils vont bientôt en mourir. Mais si c'était à refaire, s'ils se reprojetaient il y a 40 ans, eh ben ils redescendraient. Et c'est ça qui est très très intéressant parce que en fait c'est toute l'ambiguïté du système de l'ancien régime, comme je vous disais tout à l'heure, et à la fois c'est l'ambiguïté du travail, c'est-à-dire c'était l'amour du travail bien fait, c'était l'amour à la fois du travail et c'était aussi l'amour de la corporation, c'est-à-dire tous soulignent cette solidarité. C'est-à-dire, comme dit Denis à la fin, ce qui lui manque, ce sont les copains et l'ambiance au fond. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très très compliqué à faire passer. C'est quelque chose que moi, j'ai pu un petit peu me rendre compte et toucher du doigt quand j'étais adolescent et que mon papa me faisait descendre à mes engrains au fond de la mine et que j'ai commencé à faire des images dès mon adolescence. Je sentais bien que c'était un milieu qui était quand même pas naturel, pas normal. Pour moi, ça paraissait normal parce que c'était le milieu de mes parents, mais c'était un milieu quand même à part. C'est quelque chose qui est assez compliqué à faire comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous descendez au fond d'une mine, je pense qu'il y a une solidarité entre eux, et dans le travail, et dans la vie de tous les jours, quotidienne, un petit peu comme s'ils se retrouvaient sur un même bateau. Et là, vous n'avez pas le droit, si vous voulez, vous n'avez pas le droit de ne pas faire confiance en l'autre, vous n'avez pas le droit de ne pas l'aider, vous avancez dans le même sens. Et la mine, c'est un petit peu ça. Donc en fait, ils ont tous été épris d'une forte émotion en retraçant un petit peu toute cette leur histoire, mais aussi de retrouver un peu un décor, qui est quand même un décor assez hallucinant, parce que certains n'arrivent pas à descendre, certains sont claustrophobes, d'autres ont peur, d'autres, c'est un décor, c'est un monde très particulier, mais c'est leur monde, et en fait ça leur manque. Et c'est comme ça que le film documentaire se termine, où ils disent, oui, ça nous manque.
Nicolas, je vous propose que l'on fasse une petite pause musicale avant de continuer cet échange sur votre film Le Dernier Combat des Gueules Bleues. On se retrouve juste après Six Feet Under de Adam Nass. Écoutez.
Once was free, swinging by the line, lovely holy shrine, lovely house of mine. But I lost the key through the garden of time, 'cause I can dream. Six feet underground. I miss the trees, I miss the delicate sky, I'll miss my mother's smile and all the things that fly. But I wanna sleep and leave it all behind. I can dream. 6 feet underground. Let my body be. I sit in the ground.
Nous sommes de retour dans l'agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Nous sommes en compagnie pour ce grand entretien de Nicolas Jallot, réalisateur du film Le Dernier Combat des Gueules Bleues. Nicolas, j'avais envie de vous demander, avant de tourner ce film, il y a eu pour vous un long temps de préparation, il y a eu des rencontres, vous avez été puisé également dans des films et des photos d'archives. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, des photos notamment que vous avez prises pendant votre adolescence, que vous possédiez. Quel accueil avez-vous eu quand vous êtes allé à la rencontre des gens pour parler de ce projet, quand vous vous êtes installé dans la région pour réfléchir à comment vous alliez raconter cette histoire ?
Alors c'est très intéressant parce qu'au début je ne savais pas quel accueil entre guillemets j'allais recevoir, comment est-ce qu'eux allaient concevoir ce travail, qui pour moi n'est pas un travail habituel parce que je travaille plutôt sur l'étranger, voire sur des endroits un petit peu plus compliqués, sur le Proche-Orient, le Liban, l'Afghanistan, l'ex-Union soviétique, donc pour moi c'était quelque chose d'assez nouveau. Et j'ai été frappé par deux choses, c'est un, ils m'ont tout de suite considéré comme l'un des leurs. On m'a dit au début, ça va être très compliqué. En fait, ça a été d'une facilité déconcertante. Ça a été que du bonheur, ce film, j'ai envie de dire. Ça a été que du bonheur parce qu'ils m'ont accepté comme l'un des leurs. Ils m'ont fait confiance. Et très vite, le rôle s'est inversé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie de dire que c'est leur film à eux. Ils se sont appropriés leur film, l'histoire. Ils ont compris qu'ils pouvaient me faire confiance. Et ça a été très, très facile. Et ça s'est fait de façon très naturelle, en fait. Ça a été très naturel. Ça s'est fait de façon assez, j'ai presque honte de le dire, mais facile. Ça a été un film très facile à faire pour moi, parce que à partir du moment où eux ont joué le jeu et se sont appropriés le film, moi j'étais juste la courroie de transmission, en fait. Je suis la courroie de transmission, j'allais dire presque, sans dévaloriser mon travail, presque technique, c'est-à-dire que j'étais le technicien qui allait rapporter leurs propos. Et ça, c'est quand même un plaisir et un bonheur parce que c'est souvent très compliqué de faire des films documentaires sur des sujets compliqués. Et là, j'ai eu l'impression du début à la fin que c'était simple. La seule difficulté que j'ai rencontrée, c'est de faire un casting et une sélection parce que j'ai rencontré beaucoup plus de gens qui ne sont dans le film. Et c'est aussi pour ça qu'après, j'ai voulu faire le livre. C'est que j'ai rencontré plus de gens et à un moment, il a fallu choisir, donc écarter certaines personnes. Et ça, c'est toujours très douloureux.
En tant que réalisateur, vous parlez de l'émotion de ces personnes qui vous racontent leur histoire, qui apportent leur témoignage au projet. Mais vous, de votre côté, émotionnellement, dans la construction du film, dans l'écoute de ces récits de vie, est-ce que vous avez été aussi embarqué dans cette même émotion ?
Alors moi, en fait, j'ai, et je l'espère, su garder une distance professionnelle là-dedans. Donc je ne me suis pas laissé embarquer dans leur émotion. Parce qu'il faut pas, il faut savoir, réaliser un film documentaire, c'est vraiment comme du grand reportage, c'est comme du journaliste. C'est-à-dire qu'il faut savoir garder une distance. Ce n'est pas un film militant, c'est un film d'histoire, c'est un film factuel sur leur histoire. Donc je me suis toujours voulu et retenu pour ne pas justement dépasser une forme de limite. Et ce n'est pas un film militant. Donc je suis resté sur une ligne, j'ai envie de dire, très professionnelle. Je les ai laissés, eux, dans leur émotion. Et moi, j'ai essayé de prendre ma distance et de rester un petit peu en dehors de ça. J'espère y être arrivé, d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ose aujourd'hui dire que c'est plus leur film que le mien, parce que moi, j'ai été vraiment la courroie de transmission. J'ai été le chef d'orchestre, si vous voulez, le technicien, tout ce que vous voulez. Mais j'ai pas voulu, justement, rentrer dans le jeu, parce que sinon, ça serait devenu un film d'auteur ou un film de... Alors, un film d'auteur, ça l'est, mais un film, j'allais dire, militant. Et je ne voulais pas rentrer justement dans ce parti pris, je voulais être le plus objectif possible.
Si on continue à parler justement de la construction de ce film, vous avez aussi pensé le son et l'image sans artificialité, vous avez voulu rester dans quelque chose de brut. Par exemple, dans la mine, l'éclairage est uniquement celui des lampes frontales. C'est important pour vous, dans ce geste documentaire, de travailler de cette manière-là, de filmer le réel comme il se présente à nous finalement ?
Oui, alors au début, on a mis beaucoup d'éclairage, justement. J'ai travaillé avec un premier chef opérateur image qui voulait rééclairer un peu la mine. On descendait avec du matériel et tout. Et très très vite, je me suis dit que c'était pas naturel. Ça ressemblait pas à ce que moi j'avais vécu, si vous voulez, adolescent, quand je descendais au fond de la mine. Donc j'ai eu un vrai dilemme, c'est-à-dire que j'étais pas tout à fait satisfait des images qu'on ramenait. Et là, j'ai fait appel à un vieil ami qui est chef opérateur de fiction, qui travaille donc plus pour la fiction, et je lui ai dit que j'avais un vrai problème. Et lui, il m'a dit, écoute, moi, la solution, si je travaille avec toi, c'est de descendre avec le minimum d'éclairage. Et surtout, on a tous des lampes pour se déplacer. Il y a de l'électricité. Enfin, on utilise le décor naturel. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ensuite. Et les images que vous verrez dans le documentaire, certaines images sont assez sombres. Mais c'est pour retransmettre au mieux ce que c'était que la réalité de l'époque. Et donc ça, pour moi, c'était très important. Et après, il y a eu le problème du son. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme la mine n'est plus en activité, tout le monde me faisait remarquer que bah, c'est pas silencieux une mine, parce qu'une mine, ça parle, il y a du bruit, c'est même très bruyant par moment dans les chambres d'extraction. Vous imaginez, ce sont des marteaux-piqueurs, etc. Donc j'ai décidé de faire une toute première partie du documentaire quand les personnages s'installent au fond de la mine en silence. Et puis j'ai eu la chance à un moment, il y a Denis qui dit, c'est très étonnant parce qu'il dit, d'être là, j'ai l'impression d'entendre le son. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai gardé cette phrase-là dans le documentaire et j'ai utilisé le son de toutes les images d'archives que j'avais pour ensuite mettre du son au fond et du vrai ambiance sonore au fond de la mine. Mais je ne voulais pas tricher, si vous voulez, pour le téléspectateur et croire qu'aujourd'hui, la mine, c'est quelque chose de très bruyant. Donc en fait, il y a ces deux parties dans le film. Et là encore une fois, j'ai été aidé par les personnages parce qu'eux-mêmes s'étonnaient de constater une mine silencieuse parce que ça n'existe pas. Donc j'ai pu, en montage, faire une dizaine de minutes au début dans le silence et ensuite apporter l'illustration sonore. Et ça c'était très chouette parce que ça m'a permis, si vous voulez, de coller au mieux à ce que c'était l'histoire. Et j'espère que ça transpirera justement dans le film.
Pour terminer ce grand entretien, Nicolas, l'avant-première de ce film a eu lieu le 13 janvier au cinéma Le Vox à Renazé. C'était peut-être la première fois que les protagonistes pouvaient voir le film. Quels ont été peut-être leurs retours et quelles ont été les réactions des spectateurs qui découvraient cette histoire peut-être pour la première fois?
Alors les spectateurs, je ne peux pas vraiment vous répondre, il faudrait leur demander. Les protagonistes du film, ils ont tous été unanimement, que ce soit ceux de Trélazé ou de Renazé, je pense, contents, voire heureux qu'on leur rende hommage. Un ou deux étaient soulagés, ils avaient un petit peu peur, parce que quand vous vous lancez dans cette aventure, j'ai tourné pendant presque un an, et donc au bout d'un moment, ils se demandent ce que ça va donner, tout ce gloubi-boulga de un an de tournage, vous voyez ce que je veux dire, de tournage, de nombre d'heures de rush et tout. Donc j'ai senti à un moment, pas une inquiétude, mais une sorte de surprise, et en fait, ils ont découvert leur film et je pense qu'ils étaient très contents. Alors les premiers spectateurs qui ont vu le film, je pense, étaient plutôt satisfaits. Je crois que certains étaient surpris parce que je pense que moi-même, c'est pas le film que je voulais faire au début. À partir du moment où les gens se sont appropriés le film, ils se sont appropriés leur histoire, donc ils racontent leur histoire, et ce qui fait un film un peu intimiste, si vous voulez, à la fois intimiste mais je pense très authentique. Et dedans, j'ose parfois quelques touches personnelles dans ce film. Et donc, c'est un mélange, c'est un film à double entrée. À la fois, c'est la grande histoire, et à la fois, c'est une histoire très humaine, et l'histoire des personnages du film. Et avec un petit peu comme un trou de souris, mon histoire à moi et mon histoire familiale.
Merci Nicolas Jallot d'avoir passé ce moment avec nous, d'avoir partagé avec nous cette histoire. Je rappelle que le documentaire Le Dernier Combat des Gueules Bleues sera diffusé le lundi 4 mars à 23h10 sur France 3 et sera ensuite disponible en replay également sur francetv.fr.
Tout à fait. Et il y a un livre qui sort aux éditions Ouest France qui s'appelle Au pays des Gueules Bleues.
Effectivement, la sortie de ce livre, c'est aujourd'hui et ce livre sera donc disponible dans toutes les librairies mayonnaises. Merci Nicolas.
Merci à vous.
Et c'est donc le moment de l'agenda de la semaine. L'agenda culturel est très court ce vendredi, car nos salles prennent aussi des vacances. Mais je vous rappelle que les enfants et leurs parents, ou même leurs grands-parents, sont conviés à se rendre au festival Monde dans le bus. Une programmation riche et diversifiée qui s'étend du 4 au 10 mars, avec des propositions à Laval, Saint-Berthevin, Bonchamp-lès-Laval, L'Huisserie ou même Changé. Pour découvrir davantage ce festival, je vous invite à réécouter en podcast notre émission de ce mardi 27 février. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Simon Hermine du 6x4, qui nous présentait à merveille les différentes propositions du festival, notamment Le Village, qui s'installera au 40 le samedi 9 mars avec une grande proposition d'activités ou d'ateliers gratuites à destination des enfants. Vous pouvez également redécouvrir l'ensemble de la programmation sur le site du 6x4. Et donc la JT du local s'arrête ici. Merci à Nicolas Jallot d'avoir été avec moi aujourd'hui. La programmation continue bien sûr sur nos ondes et votre soirée commence à 19h avec Temps Mort. Comme chaque mois, Amazir Amaden guest, Maël Fouché et Pablo Bourdoiseau marquent un temps mort dans le rap français pour revenir sur trois sorties marquantes du mois écoulé. Ensuite, à 20h, c'est une toute autre équipe, celle de Tempus Fugit, avec Fred et Plom, et là on est plus sûr du pop, rock ou alternatif, ou même psyché et hard. Ils ne partagent pas les mêmes goûts musicaux, vous pouvez le constater, mais bien le plaisir de se retrouver et parler musique. Et qu'est-ce qui nous attend ce week-end ? Eh bien je vais vous le dire. Samedi, une nouvelle émission de l'autre radio arrive sur nos ondes et lance le top départ de la journée. Il s'agit de Alors on joue. On y fera la connaissance de Céline, qui est ergothérapeute et qui nous raconte comment elle utilise le jeu avec ses patients. L'émission nous emmène aussi à Cannes pour le Festival International des Jeux et ce n'est pas tout. Ce sera à découvrir samedi matin, 10h, sur les ondes de l'autre radio. Le week-end se terminera avec On lit quoi nous, une émission pour parler de toutes les littératures jeunesse, des plus petits aux jeunes adultes, avec des actualités, des interviews d'auteurs, des chroniques et des lectures. Toute la programmation est bien évidemment disponible sur notre site internet l'autreradio.fr. Moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Profitez bien du week-end, faites-vous plaisir, faites attention à vous et surtout, bien sûr, faites-le bien.
Mimi, tu crois que c'est fini ?
Quand elle dit au revoir, bah, c'est que c'est terminé.